Vous écoutez France Culture. Le livre, dans tout son éclat, dans tous ses états, pour la littérature, chaque jour de la semaine de 16h à 16h45 sur France Culture.
La NRF, 100 ans de littérature. Troisième épisode aujourd'hui autour des heures les plus sombres de la Nouvelle Revue Française, celle de l'Occupation. Aventure commencée, on l'a vu, en 1908, par un petit cercle d'amis qui plaçait la littérature au-dessus de tout, la NRF est devenue, dans l'entre-deux-guerres, la revue littéraire par excellence, réunissant tous les plus grands écrivains du moment. En juin 1940, alors que la France, sous l'invasion fulgurante de l'Allemagne nazie, est en pleine débâcle, la NRF cesse de paraître. En décembre 1940, six mois plus tard, surgit un nouveau numéro, mais c'est aussi l'entrée en scène d'un nouvel acteur, Pierre Drieux-La Rochelle. Il dirigera la revue de 1940 à 1943 sans faire mystère de ses sympathies pour l'occupant allemand. Se joue alors dans l'histoire intellectuelle un moment crucial qui pose plus que jamais pour les écrivains la question de leur engagement. Moment traumatique aussi dans l'histoire de la NRF puisque s'en suivront 10 ans de silence avant la reparution de la revue en 1953. Alors que devient une revue fondée au départ sur l'idéal de la littérature pure quand la politique fait irruption dans son histoire ? Dans quelles conditions cette institution synonyme de respectabilité et de bon goût a-t-elle pu reparaître sous le contrôle de l'occupant allemand ? Des questions que nous allons poser à Jacques Lecarme et Gisèle Sapiro qui nous font l'amitié de venir nous voir aujourd'hui. Alors Gisèle Sapiro, vous êtes directrice de recherche au CNRS, sociologue et historienne de la littérature et vous avez publié entre autres « La guerre des écrivains 1940-1953 » chez Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Lecarme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature française à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et vous vous êtes beaucoup intéressé à Sartre et aux lettres françaises et également à Drieux-La Rochelle. Vous êtes notamment l'auteur de Drieux-La Rochelle ou Le bal des maudits, publié aux Presses universitaires de France. Pour commencer, Gisèle Sapiro, vous avez étudié la NRF sous un angle sociologique en tant qu'institution littéraire, au même titre par exemple que l'Académie Goncourt ou l'Académie française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle place occupe la Nouvelle Revue Française dans le champ littéraire français en 1940 ?
La Nouvelle Revue Française avait tenté, après la guerre, de constituer un lieu pour la littérature pure, à un moment où, justement, la politique était très prégnante, puisqu'on sortait de guerre. Et en fait, Jacques Rivière, qui à l'époque était le rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Française, avait pour projet de, en gros, dénationaliser, on peut dire, la NRF, d'en faire un lieu de débat, de discussion, de l'esprit, hors des contraintes que la guerre fait peser aux intelligents. C'était une citation de lui. Et il était soutenu dans cette entreprise par André Gide, pas par tous les fondateurs. Par exemple, Jean Schlumberger était beaucoup plus sceptique par rapport à cette entreprise. Mais Jacques Rivière est parvenu, en fait, à imposer ce point de vue. Et son successeur, Jean Paulhan, à partir de 1925, va avoir une politique de défense de la littérature pure. Or, cette défense de la littérature pure, dans les années 30, devient de plus en plus difficile. Difficile, étant donné la politisation qui advient à partir de 1934 notamment. Alors Paulhan aura une stratégie pour surmonter ce problème, parce que faire de la littérature pure dans des conjonctures de forte politisation, c'est aussi se couper du débat intellectuel.
Oui, donc dans les années 30, il y a une préparation de cette politisation.
Alors, la NRF a toujours parlé de choses politiques, mais il y avait des rubriques réservées à ça.
L'ère du mois, notamment.
L'ère du mois, c'est dans les années 30. C'est Paulhan qui développe cette rubrique. Mais en tout cas, il y avait avait toujours des lieux où on pouvait en parler, mais en le séparant de la littérature et ne jugeant pas la littérature à partir de la politique. C'est ça le point le plus important. Et en ne faisant pas d'exclusive de collaborateurs sur des bases politiques. Donc la NRF devient un lieu en fait de discussion et de débat. Par exemple, la stratégie de Pollan, c'est de mettre un texte de Trotsky demandé par Malraux avec socialisme fasciste de Drieu-La Rochelle, par exemple, pour montrer le débat, la pluralité des points de vue et la diversité et la discussion entre ces points de vue. Maintenant, cette ligne, à partir du moment des accords de Munich, change. C'est-à-dire que là, Pollan décide d'adopter une ligne anti-munichoise à ce moment-là, à un moment où il y a un consensus national sur,
y compris Léon
sur
Blum,
les accords de Munich, absolument. Donc, il y a une sorte de soulagement collectif et la NRF prend une position critique par rapport à ce consensus national.
Est-ce que cette politisation de la NRF finalement est contradictoire avec l'idée de Gide au départ selon laquelle ce n'est pas avec des beaux sentiments qu'on fait de la bonne littérature et finalement un idéal esthétique ne doit pas coïncider avec un idéal éthique. Est-ce qu'il y a une contradiction ?
Alors, bon, chez Gide, c'est plus compliqué parce que l'éthique est très prégnante, très importante dans son œuvre. Et d'ailleurs, la NRF ne refuse pas l'éthique. Elle publie, par exemple, Moria. Mais ce à quoi elle s'intéresse, c'est la manière dont l'éthique peut être interrogée du point de vue littéraire. Et le principe, c'est de ne pas juger les œuvres à partir d'un point de vue éthique. Or, même à partir de 1938, Pollan refuse tout jugement politique sur les œuvres. Et il a refusé les textes les plus politisés de certains de ses collaborateurs, comme un extrait du Péril juif de Jouhandeau. Voilà.
Vous parlez de Pollan, des liens entre littérature et politique. On va écouter un texte de Jean Pollan, L'espoir et le silence.
L'espoir et le silence, Jean Pollan. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est question dans ces pages de la dictature de la France sur les Français. Et notre espoir a moins que jamais besoin d'explications dans ces journées sévères où il devient une flamme. Qui se refuserait pourtant aux raisons qui peuvent l'assurer et le nourrir ? Certes, l'une des plus grandes forces que le monde ait vues s'est dressée contre nous. Prenez garde cependant que c'est une force joyeuse, élevée pour le pillage et pour la victoire. Un échec doit la déconcerter. Tout laisse croire que sa résistance est inégale à son attaque, sa défense à son offense. Mais nous, nous voici en face d'elle, avec cet abîme derrière nous. Le bagne et l'esclavage égaux pour l'ouvrier, pour le paysan, pour le bourgeois. Acculé à l'invention et au génie, ce n'est pas là pour nous inquiéter. Que les généraux, disait Moréas, fassent donc leur métier comme je fais le mien. Par chance, nous connaissons le métier de nos généraux d'à présent. Il passe encore celui d'un Moréas, contraint d'espérer, ce serait peu, contraint aussi de ressembler à cet autre espoir que mettent en nous 10 peuples torturés, dont les uns souffrent silencieux et les autres se battent en héros. 10 peuples torturés et 20 peuples encore libres. Du pape Pie XII au président Roosevelt et de l'Amérique espagnole à l'Amérique latine, ils se forment autour des alliés une seconde alliance des justes. Un peu inerte encore, sans doute, mais nous-mêmes, n'avons-nous pas été longtemps inertes ? Voici du moins la récompense imméritée de trop de patience ou de paresse. C'est qu'enfin notre ennemi a dû prendre sur lui tous les torts. La violence, mais l'hypocrisie. La fourberie, mais la cruauté. Et ceux-là même qui auraient peut-être admiré sa force reculent devant sa mauvaise foi. À quel espoir nous refuser ? Je dirais l'un des plus grands, qui est politique. Certes, notre République semble avoir avoué depuis 20 ans tous les vices dont ses adversaires lui font grief. Pourtant, nous nous battons pour quelque chose qui ressemble à la République, pour la liberté des personnes, contre la servitude volontaire. En vérité, le problème a des termes si clairs qu'il serait fou de ne point espérer une réconciliation française si chacun de nous, dès aujourd'hui, le pose et s'essaie à le résoudre dans son secret, dans son silence. Ce silence n'est pas moins dû à nos amis qui se battent dans les flammes et pour qui, il n'est pas d'autre mot, nous prions.
Très beau texte de Jean Pollan, paru dans la NRF en juin 1940. Alors est-ce un autre appel de juin 40, Jacques Le Carme ?
Oui, je voudrais revenir sur ce qui a précédé. À lire la revue NRF, car il faut toujours distinguer la revue NRF et les éditions NRF, le choix de Jean Pollan s'annonce dès 1938-1939. Il rompt avec Drieux, d'une manière très nette, en refusant de publier dans la revue la deuxième partie du Gilles de Drieux, qui était une charge terrible contre les surréalistes, mais aussi contre la démocratie parlementaire.
Donc Gilles, roman dans lequel il met en scène des personnages inspirés des surréalistes.
Et c'est la deuxième partie la plus hargneuse, disons-le, qu'il a. Et inversement, et c'est une autre manière de rompre avec Drieux, tout en continuant à le publier, c'est le choix qu'il fait de publier Les Voyageurs de l'Impérial d'Aragon dans la NRF, si je me souviens bien, de 1940. Or, oui. Pollan s'engage très vivement pour dire que Aragon, quoique toujours membre d'un parti communiste interdit qui ne brille pas par le bellicisme, Aragon fait son devoir d'officier dans l'armée, très courageusement, alors que Drieux reste chez lui au coin du feu. Mm-hmm. Et ceci, je crois, explique les choix opposés, en apparence moins, de Pollan en 1940 et de Drieux au même moment, en juin 1940, si Drieux avait fait un appel, c'était un appel à l'acceptation de la défaite et déjà à la collaboration avec l'occupant. Est-ce d'ailleurs essentiellement l'occupant? Je pense que dès 1934, Gisèle Sapiro le rappelait, la publication de Socialisme fasciste était une adhésion, je dirais, globale au mouvement totalitaire. Simplement, Drieux n'avait pas choisi s'il était plutôt du côté de Staline, de Mussolini ou de Hitler.
Oui, une fascination chez Drieux pour les régimes totalitaires. Alors, pour revenir à Pollan, comment caractériser cette fin de NRF, cette interruption et ce silence?
Le texte de Pollan, juin, est publié avant qu'il ait connaissance du désastre, de la déroute, oui, de la fin, juin 40. Il est donc, dès le 18 juin, oui, il est donc désuet. Il est périmé,
avec l'appel
si
du
vous
général
le voulez. Simplement, je pense que Pollan, par la suite, peut dire à bon droit qu'il a été sans doute, en même temps que De Gaulle, le premier résistant intellectuel de la France, comme le prouve son engagement dans le groupe des Musées de l'Homme.
Oui, Gisèle Sapiro.
Oui, ce sera sur le refus de la servitude volontaire qu'on pourrait mettre en vis-à-vis avec l'idée de Drieux quand il reprend la NRF d'accepter de faire la propagande, et il le dit, sans accepter de dictat, mais en acceptant de faire la propagande. Et ce qui est intéressant dans ce texte de Pollan, c'est que c'est un texte prophétique. En fait, ces deux mots d'espoir et de silence vont être repris par la résistance, et ça va être un peu le mot d'ordre de la résistance. Et puis je mettrai aussi en rapport le choix du silence, la décision de se taire pour la littérature, avec, oui, le texte de Sartre, oui, de 43 sur il y a un moment où la littérature doit choisir de se taire. Enfin, c'est son rôle, c'est son devoir.
C'est,
et je pense que Sartre fait référence à Pollan.
Ce thème du silence traverse en fait toute cette période chez différents écrivains. Il y a également Blanchot, voilà, dans le Journal des débats, qui parle du silence de l'écrivain et qui le théorisera après la guerre. Mais le silence, pour Sartre, c'est finalement le fait que se taire, c'est encore parler. C'est l'idée que c'est toujours un engagement.
Oui, oui, mais c'est aussi le fait que ça renvoie à l'espèce d'accord qui va se faire parmi les écrivains du refus de l'abstention, de refuser de publier sous la botte, en fait, au grand jour. Après, il va se décider de non pas continuer à se taire, mais de publier, mais clandestinement, de manière illégale. Mais ce mot d'ordre de se taire, ça va être ça. Et je pense que quand effectivement se taire, c'est encore parler, c'est pas tout à fait, là c'est pas tout à fait le même sens, parce que quand il dit le devoir de la littérature est de se taire, c'est qu'on ne peut pas faire de la littérature pure dans toutes les circonstances. Et c'est d'ailleurs le débat qui va s'engager au moment de la reprise de la NRF.
Oui.
Parce que la ligne, Drieux voulait faire une NRF plus engagée. C'est finalement Otto Abetz, l'ambassadeur de l'Allemagne auprès des forces d'occupation à Paris, qui souhaite en fait que la continuité se fasse et que faire un lieu de l'art pour l'art. Donc c'était pas du tout la ligne de Drieux. Mais cette ligne de l'art pour l'art, est-ce qu'il faut faire de l'art dans toutes les circonstances, et est-ce que c'est une défense de l'esprit français que de continuer à faire de l'art? Ça va être le grand débat.
Oui, est-ce que le simple fait de faire son travail d'écrivain, de publier, pendant l'occupation est déjà en soi un acte de collaboration.
C'est le débat qui va s'engager de manière officieuse entre les écrivains. Et en fait, les écrivains de leur abstention par l'abstention vont en fait mettre ceux qui publient en position de collaborateurs. Ouais. Et la raison pour laquelle ils décident l'abstention, c'est qu'ils considèrent, et Paulhan le premier, que les conditions de production ont changé, que faire de l'art pour l'art dans des conditions comme celle-là, c'est ratifier ces conditions, les normaliser. C'est ce que veut d'ailleurs l'occupant. Ça fait le jeu de la politique d'occupation. Et en fait, ce qui pour Paulhan est intolérable, et c'est pour ça qu'il n'acceptera pas jusqu'au bout de signer dans la revue, même si il aide un parti d'un moment, il aidera Drieux en sous-main. La raison pour laquelle il refuse absolument de signer la revue, c'est qu'on a exclu de cette revue des collaborateurs à cause de leurs origines religieuses, des collaborateurs juifs.
Avec le statut des juifs dès octobre 1940.
Voilà. Donc d'emblée, ils sont exclus et même ils n'y participent même pas sous pseudonyme. Enfin, donc il y a une véritable exclusion. Mm-hmm. Et aussi d'autres collaborateurs pour leurs idées politiques. Oui. Voilà, les antifascistes.
Donc on va revenir sur cette idée que la NRF qui reparaît, on va se demander si c'est la même ou non. Et alors, pour comprendre cela, on peut parler de la figure de Drieux-La Rochelle. Alors Jacques Lecarn, qui est Drieux-La Rochelle en 1940?
Je pense qu'il y a une illusion rétrospective. À mon sens, Drieux-La Rochelle, depuis Interrogation, 1916, des poèmes, avait fait une œuvre de grande qualité, mais qu'il présentait lui-même comme des échecs, et on l'a pris à la lettre, la critique généralement y a vu des échecs, et hormis, publié dans la NRF Revue, La valise vide, hormis peut-être Le feu follet, ses œuvres n'avaient pas touché le grand public, étaient en général très mal considérées par la critique, et surtout à la NRF, où, par exemple, Marcel Arlan fait des articles extrêmement négatifs. En outre, comme je l'ai rappelé, en 1939, il a l'impression d'avoir donné son meilleur livre, Gilles. Et Gilles, incontestablement, n'a pas une critique favorable, et en raison des circonstances aussi, ne rencontre pas un grand succès. Je rappelle que le héros, Gilles, finit, au terme du livre, par s'engager dans la phalange franquiste et dans les troupes armées.
D'ailleurs, alors, c'est une sorte de double de Drieux-La Rochelle.
Oui. Je dis en riant, un grand critique de l'époque, le plus apprécié, Robert Kemp, reproche à Drieux d'avoir fait terminer son livre sur un engagement dans les rouges. Et Drieux n'en est pas encore revenu, mais ça donne une image un peu de la confusion de l'époque. Je pense enfin que Drieux se sent à ce moment-là un peu en état de rupture avec la NRF, alors qu'on sous-estime toujours, à mon sens, l'amitié profonde qu'il avait de Gaston Gallimard et qui le liait à Gaston Gallimard.
Alors il faut revenir sur ses rapports avec différentes grandes figures, avec Aragon, une relation compliquée, avec Paulhan, avec Gallimard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous ces rapports personnels?
C'est très compliqué. Avec Aragon, il y a eu une amitié passionnée, qui se manifeste par les dédicaces croisées en 1925 de leurs œuvres respectives. Il y a eu une rupture pour des motifs personnels et, disons, pour être pudique, sentimentaux, mais qui s'est compliquée, bien entendu, par une rupture idéologique. L'un, je suis obligé d'être grossier, choisit le Parti communiste, oui, dont il est quasi permanent. Il entrevira au comité central. L'autre rejoint en 1935 le Parti populaire français de Doriot, qui est au fond le seul parti fasciste à avoir trouvé un certain accueil populaire. Donc les couteaux sont tirés. En outre, il faut le dire, on est dans une guerre civile des écrivains. Oui. Comme le rappelait d'ailleurs Jonathan Little, ça m'a frappé récemment, très justement, à la radio. Et dans cette guerre civile s'y ajoutent les concurrences entre deux écrivains qui ont choisi peut-être la voie d'une sorte de roman réaliste, parfois quasiment naturaliste, malgré leur origine dadaïste ou surréaliste. Donc ils sont en concurrence totale. Et d'ailleurs, le plus regrettable article de Drieux sera celui, c'est vrai, qu'il fait contre Aragon, avant celui qu'il fait contre Mauriac, à un moment où il sent bien qu'ils ont rejoint la résistance. Entre Drieux et Paulhan, je pense qu'il y a toujours eu une certaine complicité, une certaine connivence, et rien n'est plus beau, je trouve, que les derniers articles, les derniers textes de Paulhan sur Drieux, en particulier en 1965, cette brève apologie pour Drieux. Je pense que Paulhan a eu finalement, mais là je n'engage que moi, une attitude assez rectiligne. La question, c'est au fond, et j'en parle, ce devrait être Gisèle Sapiro qui en parle, c'est au fond l'autonomie de la littérature et l'hétéronomie de la littérature. Drieux veut, pour lui seul, engager la NRF dans la voie de la collaboration avec l'occupant ou avec l'Allemagne nationale socialiste. Mais qui le suit à la NRF? Quasiment personne, sauf Chardonne pour des sorties qui vont beaucoup choquer, jusqu'au bout d'ailleurs. Monterland, mais que personne ne peut prendre au sérieux, en raison de ces génuflexions devant la croix gammée qui sont écrites dans un style flamboyant et tout à fait admirable. Ou bien, je cherche le dernier, Armand Petitjean, mais qui est si confus qu'on ne sait jamais s'il s'engage à quoi, dans la collaboration ou dans la résistance, et qui finira d'ailleurs dans les goumiers marocains pour la libération de la France. Donc vous voyez, je pense que Drieux prend la NRF à la demande de Gaston Gallimard pour que la revue favorise les éditions. Les auteurs réclament des droits d'auteur. Gaston Gallimard a voulu jusqu'au bout sacrifier la revue, donc la continuer, pour protéger l'édition. C'est Blanchot qui le dit et qui était, si j'ose dire, au premier loge, bien que sa signature n'apparaisse nulle part dans la Nouvelle Revue Française. Mais quelque chose me paraît essentiel. La NRF est un médium extrêmement autonome. Tous les écrivains qui ont choisi la collaboration, à l'exception de Drieux et encore de manière très modérée, expriment leur collaborationnisme, c'est le terme qu'on a alors, dans d'autres médias. Le médium NRF est infiniment supérieur aux auteurs NRF qui vont chercher ailleurs des exutoires pour leur choix de la collaboration.
Gisèle Sapiro.
Alors oui, le point problématique, c'est est-ce que cette autonomie est possible dans ces conditions? Enfin, c'est ça. Et alors, le débat a eu lieu, mais ce qui est intéressant, vous citiez Monterland, Jacques Lecarme. Alors justement, Monterland, pour justifier la poursuite de l'activité, des activités culturelles sous l'occupation, trouve le moyen de citer Hitler. Il cite une phrase de Hitler de 35 en disant « On ne peut suspendre l'activité de l'esprit pour une certaine période sans une régression de la culture générale et une décadence définitive. » Donc c'est une phrase qu'aurait prononcée Hitler dans un discours au Congrès national socialiste de 1935. Et donc, il utilise ça, ce qui fait que ça sape les fondements même de cette prétention à l'autonomie, en fait. Il y a une sorte de tentative qui est vouée à l'échec. Et d'ailleurs, le désengagement, le désinvestissement des collaborateurs va être très rapide. Bon, Gide, par exemple, qui collabore aux deux premiers numéros sur la demande de Gaston Gallimard, très vite reçoit des lettres quasi d'insultes de gens. Donc, une sorte de rappel à l'ordre du champ littéraire, on peut dire, pour dire, mais attention, qu'est-ce que vous faites? C'est un signal. Et donc un désinvestissement des fondateurs et de toute la jeune génération qui va suivre Jean Paulhan dans la résistance au Comité national des écrivains. Donc c'est Sartre, Léris, Queneau, ceux que Jean Paulhan avait fait monter dans la dernière période depuis 38. Alors il y a quelques nouveaux venus. Drieux arrive à recruter quelques jeunes poètes, École de Rochefort, des poètes tout à fait intéressants qui viennent là parce qu'eux n'ont pas les codes et les clés et qui, pour eux, croient dans la continuité de la revue.
Vous montrez bien dans votre livre que les parcours individuels comptent beaucoup dans les choix de l'engagement ou non.
Oui, absolument. De la collaboration à la revue, oui. Et aussi le rapport à Paulhan, parce que certains demandent l'avis de Paulhan. Certains voient... En fait, le fait que Paulhan refuse de signer la revue constitue une sorte de repère dans le champ intellectuel. C'est moins sensationnel que la rupture de Gide, mais d'emblée, les gens posent la question à Paulhan. Or, Paulhan ne se sent pas habilité à empêcher Jouandeau, Chardonne, Chardonne, il n'en est pas très proche, de leur dire non, ne le faites pas. Et en même temps, Paulhan lui-même est ambivalent. Il dit l'entreprise de Drieux, si l'occupation devait durer 3-4 mois, elle est horrible, mais si elle devait durer 100 ans, elle est importante, elle est intéressante, enfin elle est plus qu'intéressante, elle est importante et il fait un vrai service aux lettres françaises. Donc lui-même, il est ambivalent, il comprend bien la difficulté de cette situation. Malgré tout, il y a des textes dont l'ensemble va constituer, l'été à la Maurie de Chardonne, alors les Allemands sont corrects, etc. Enfin, il y a un ensemble de textes qui donnent un ton, une tonalité qui contribue à la normalisation de la situation d'occupation, en fait.
Maintenant, on peut se demander quel est le rapport de Drieu à la NRF, puisqu'il y a une certaine rancœur, et c'est paradoxal que ce soit lui, finalement, qui devienne directeur.
Oui, enfin, ce que je voulais citer, c'est un extrait de son journal du 2 juin 40, où il dit, et pour les raisons évoquées par Jacques Le Carme, c'est-à-dire le refus de Pollan de publier la seconde partie de Gilles, et le fait d'avoir fait monter Aragon, qui a eu en plus le prix Renaudot, donc, et que Gallimard veut récupérer pour la maison, parce qu'ils étaient brouillés depuis 37, donc il y a une stratégie de la maison Gallimard, là encore, de récupérer Aragon, même si Pollan, je crois sincèrement, trouve les poèmes d'Aragon vraiment de qualité, Gide aussi, enfin bon, donc cette citation de Drieu dans son journal du 2 juin 40, « Quant à la NRF, elle va ramper à mes pieds, cet amas de juifs, de pédérastes, de surréalistes timides, de pions francs-maçons va se convulser misérablement. Gallimard, privé de son Hirsch, c'était le directeur commercial de la maison, était d'origine juive, et de quelques autres, Pollan, privé de son Binda, aussi évidemment juif, vont filer le long des murs, la queue entre les jambes. » Donc, oui. Il y a une violence très forte de Drieu et en même temps, très vite, cette entreprise l'ennuie. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, il se dit, mais toute cette histoire, la collaboration, la revue, ça m'ennuie terriblement. Dans quoi je me suis mis, pourquoi je fais ça? Et il l'écrit dans son journal.
Et dans votre livre, vous écrivez que Drieu, au même titre que Monterland, peut être considéré comme un héritier déshérité au sens de son parcours individuel. Comment vous pouvez retracer ce parcours?
Le parcours de Drieu?
Oui,
oui, c'est assez fréquent dans ces milieux littéraires. C'est-à-dire que Drieu a un rapport très compliqué, et là aussi Jacques Le Carme l'évoquait, à sa propre histoire et avec cette espèce de syndrome d'échec qui vient du rapport à son père. Enfin, c'est cette scène dans Rêveuse bourgeoisie où le moment de l'échec scolaire, du concours d'entrée dans la diplomatie, où il rentre à la maison et il voit, il voit à la fois à travers cet échec s'effondrer tous les espoirs familiaux et en même temps il dit de son père, il triomphait, nous étions à son niveau. Enfin, c'est une phrase extrêmement violente, je trouve, dans un rapport à soi. Et c'est vrai que Drieu n'a cessé de dévaloriser, même dans son rapport à Aragon. Il admire Aragon, il trouve que c'est un grand écrivain, il se trouve médiocre à côté d'Aragon. Et en même temps, il a un mépris incroyable, c'est ça, cette position un peu de l'entre-deux, quoi, d'héritier déclassé.
Jacques Le Carme.
Tout ce qu'a dit Gisèle Sapiro est vrai, mais j'ai une optique différente. Je reviens au fond, je ne parle moins en historien de la littérature, ce que je suis, qu'en médiologue, ce que je ne suis pas tout à fait. Un journal intime est un médium, bien qu'il soit censé être transmis à personne. Et ce journal n'avait jamais été prévu pour l'édition, quoi qu'on en ait dit. Et il y a la revue NRF, qui est un médium, qui est une sorte de trésor, depuis 1908, de toutes les valeurs et de toutes les vertus. Et François Nourricier, à mon avis, est tombé dans une erreur d'optique lorsqu'il relie dans l'album de la NRF, le siècle NRF dans l'album de la Pléiade, lorsqu'il relie les contributions de Drieu, mais les a-t-il relus? À la lumière du journal qui l'a évidemment révolté, alors que le même Nourricier avait été avec Bernard Franck, l'artisan du retour à Drieu.
Oui, le journal de Drieu qui a énormément choqué.
Et qui a été publié vers 1990 et qui a changé l'optique totalement et qui, à mon avis, fausse un peu les choses, car nul n'est un grand homme dans son journal, c'est certain. Et celui de Drieu, qui est la purge de tous les mauvais sentiments qu'il n'exprimerait jamais dans une revue honorable comme la NRF, va dans ce sens-là. Moi, il me semble qu'il y a un point qu'on n'a pas jusqu'ici évoqué. Drieu, j'en rappelais avec interrogation, est quelqu'un qui a combattu dans la guerre de 14, héroïquement, dans la troupe, au niveau modeste, sergent.
Ancien combattant, donc.
C'est un ancien combattant et il est bien connu que le fascisme s'est nourri presque étymologiquement de la situation des anciens combattants. Il est lié, en raison de son intérêt pour le national-socialisme dès 1934, des liens qui sont des liens personnels et même assez intimes, il faut le dire, avec Otto Abetz, qui se retrouve ambassadeur d'Allemagne à Paris et en fait de facto à Vichy aussi, bien entendu. Et, me semble-t-il, c'est quand même à la demande expresse, j'y reviens, de Gaston Gallimard, qu'il reprend la NRF. On ne peut pas reconstituer la rencontre. Otto Abetz aurait, selon Drieu, dissuadé ce dernier de prendre la revue. Alors, en lui disant clairement, oui, vous finirez par être fusillé. C'est ce que beaucoup de gens le disent.
Mais Otto Abetz aurait prononcé la phrase « Il y a trois puissances en France, les banques, le Parti communiste et la NRF ».
Oui, mais personne n'a pu authentifier à ma connaissance cette formule. Elle rencontre peut-être de manière exagérée du prestige, de l'audience de la NRF, dont le tirage ne correspond pas à cette puissance extrême. Je pense que Drieu...
Gisèle Sapiro, sur cette importance
point,
de la NRF.
Juste un point, c'est qu'en fait, il n'a peut-être pas prononcé cette phrase, mais en tout cas, il a décidé... la NRF est la seule revue autorisée à reparaître, et même pas la revue des deux mondes. C'est-à-dire qu'il donne à la NRF la place que Bourget a signée à l'Académie française au XIXe siècle.
Oui,
en gros. Voilà,
mais
c'est
parce
ça,
que Otto Abetz a déjà prévu... que seul Drieu peut jouer sur la... Qui d'autre, d'ailleurs, à ce moment-là, pouvait, j'ose pas dire, se flatter, puisqu'on est savant que c'est déshonorant, d'avoir des relations favorables avec le national-socialisme. Contrairement à ce que l'on pense, l'Action française, qui, à mon avis, s'aiguillera vers une collaboration de facto, était germanophobe. Et il suffit de relire les propos de Maurras en 1940, qui appelle au démembrement de l'Allemagne, pour voir à quel point, si vous voulez, Drieu était isolé dans son adhésion au socialisme fasciste. Et c'est Mauriac plus tard qui a fait une remarque que je trouve passionnante. Mauriac se dit, mais c'est curieux, Drieu La Rochelle n'a jamais été censuré lorsqu'il écrivait des éditoriaux dans la Nouvelle Revue française, où il affirme tranquillement en 1942 que Staline va gagner la guerre, que les Allemands sont fichus, que tout est perdu et que le communisme va régner sur l'Europe. Non, rien. Par contre, lorsque Drieu, on ne dira jamais assez, veut interrompre dès 1942 la Nouvelle Revue française, lorsqu'il veut, après l'échec de la tentative d'un comité de lecture où les anciens reviendraient, de nouveau l'interrompre et où il l'interrompt en 1943, il est intéressant de voir qu'il est passé à une autre revue non littéraire, La Révolution nationale, de son ami Lucien Combel, où d'ailleurs il fréquente Brasillac. Or là, dans des éditoriaux apocalyptiques, où Drieu montre que le tout socialisme fasciste, tout nazisme va disparaître dans le chaos, à ce moment-là, la censure allemande le deal avec Otto Abetz est interrompu. Je dirais parce que c'est en général nié que tout de même n'est pas que c'est à l'actif de Drieu. Gérard Deslaire, dont certains historiens contestent le témoignage, a affirmé que Drieu lui avait demandé d'assurer la protection vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, il en cite je crois que quatre, Jean Paulhan, Gaston Gallimard, Malraux et Aragon. Alors la plupart des historiens disent non, c'est... Or
Paulhan
tout de même,
a été libéré,
qui libère
grâce à Drieu.
Paulhan, c'est Drieu La Rochelle, et nous avons la lettre de Paulhan qui le remercie. Tout de même, n'exagérons pas ici. L'actif de Drieu, dans le groupe du Musée de l'Homme, Paulhan est libéré, mais nous aurons condamné ou arrêté ou même fusillé dans le cas de Boris Vildé, je sais pas. Nous aurons...
Presque tous
ont été fusillés. Si vous voulez, la protection s'est appliquée sur Paulhan. Mais tout de même, il y a un deal chez Drieu. Par exemple, on ne peut plus aujourd'hui consulter des textes que Frédéric Grover, dont je salue le travail et qui vient de mourir, il les avait, lui, consultés. Gallimard, par exemple, va demander à Drieu, avant même la réouverture de la NRF, de faire une liste des écrivains qu'il souhaite voir libérés des camps de prisonniers. Il y a 1,5 million de Français dans les camps de prisonniers. Et la secrétaire de Gallimard, sous l'indication de Drieu, fait rentrer un certain nombre d'auteurs Gallimard en prévision de la relance de la revue.
Alors pour comprendre le rapport de Drieu aux autres écrivains, en 1942, on va écouter une chronique intitulée « La fin des haricots ».
La fin des haricots, Pierre Drieu La Rochelle. Un jour, vers 1936, je fus interrogé par un de ces amateurs qui n'écrivent pas ou qui n'écrivent guère et qui donc tournent avec une envie malveillante autour de l'encrier des autres. Penché sur ce puits aux moires parfois profondes, ils n'aperçoivent guère qu'un étroit reflet. Après cela, ils s'en vont disant « Un tel, je le connais, il n'est que la connaissance que j'en ai. » Celui-ci me demanda « La guerre civile va éclater en France. Vous m'avez l'air de vous livrer à toute sa frénésie. Jusqu'où donc irez-vous? Dans certaines circonstances, pourriez-vous par exemple en venir à tuer M ?» Tout de go, je répondis « Oui ». Le compère se récria complaisamment. Il ne voyait dans ma réponse que fanfaronnade impie. Pourtant, voici le raisonnement que je faisais. M est un écrivain engagé dans l'action politique, comme moi. Si la guerre civile éclate, il ne sera plus qu'un chef politique, moi aussi sans doute. S'il devient un vrai chef, il sera un ennemi mortel. Donc, si je le rencontrais dans un combat, je devrais tirer sur lui, et peut-être n'aurais-je pas le droit d'empêcher qu'on le fusille, prisonnier, dans certaines circonstances extrêmes. Si je ne pense pas cela, je ne prends pas M au sérieux, je lui fais injure, et je ne me prends pas moi-même au sérieux. Depuis, j'ai parfois repensé à ce oui qui m'était sorti si prompt du gosier. L'amateur avait un peu raison de douter de ma rigueur. Il y avait quelque enfantillage, et pourtant j'avais plus de 40 ans, dans ma façon d'imaginer une scène où ce oui aurait pris sa juste signification. Je supposais une guerre civile éclatant franchement et se développant tout droit comme l'affaire d'Espagne. Or, nous sommes dans la guerre civile, mais elle reste encore larvée. Il n'y a pas que deux camps, il y en a au moins trois. Et il se trouve que M n'est plus dans le camp où je le visais alors. Il est vrai qu'il est encore dans un camp ennemi, mais lui et moi, nous en sommes restés à la polémique intime, dans les conversations de vieux amis qui ne peuvent se séparer. Jusqu'à quand? Derrière cette anecdote inachevée, voici tout le problème de la responsabilité de l'écrivain.
Paradoxal, Gisèle Sapiro, de voir poser la question de la responsabilité de l'écrivain par un auteur comme Drieu La Rochelle.
Ah, ça n'est pas paradoxal, il a toujours et s'est toujours réclamé de la responsabilité de l'écrivain. Je pense que cette anecdote de 1936, je pense que la personne qui l'a interrogé, ça doit être Jean Paulhan, et le M, c'est peut-être Aragon, mais je n'en sais rien. Mais ce qui est probable, c'est le contexte en tout cas de l'interrogation, c'est un moment où Maurras a été mis en prison et où Paulhan refuse de signer une pétition en sa défense en disant que s'il signe cette pétition, la parole de l'écrivain sera discréditée, c'est-à-dire soit l'écrivain a une parole qui va être prise au sérieux, auquel cas il doit assumer les conséquences de ses paroles, soit elle ne doit pas être prise au sérieux et il ne s'en réclame pas. Alors le contexte de ça auparavant, c'était le manifeste de Breton en faveur de la défense du poème d'Aragon, Front Rouge, qui avait été poursuivi justement parce que il y avait des attaques contre membres du gouvernement, feu sur Léon Blum, bon cours d'EA, etc. Donc le contexte et la pétition de Breton qui disait c'est de la poésie, donc et on ne peut pas la traiter comme un texte normal. Paulhan s'en était offusqué d'une certaine manière. C'est vrai que ça contredisait la théorie même des surréalistes qui disait il faut que la poésie fasse la révolution. Donc si la poésie doit faire la révolution, il est normal qu'on la traite comme dangereuse. Et pour Paulhan, c'était important cette conception. En tout cas, le point de vue de Paulhan, c'est que lui, en tant que critique, il doit être évidemment solidaire des écrivains et de leurs œuvres et de juger leurs écrivains, mais la prise de parole politique des écrivains les engage. Et à ce moment-là, alors c'est la question qui se pose, c'est la question de la solidarité dans ce texte. C'est une question intéressante.
Entre
les écrivains. C'est-à-dire, Paulhan est le plus solidaire des écrivains. Il refuse de signer la NRF parce que certains sont proscrits. Paulhan est toujours le défenseur des proscrits. Et en même temps, son idée, sa haute idée de la littérature est qu'il faut que la littérature soit prise au sérieux. Et tout ce débat va se rejouer très très fortement à la Libération, puisque ça va être le débat sur l'épuration et sur les poursuites. Et à ce moment-là, Paulhan ira un petit peu en retrait, sera en retrait par rapport à sa position antérieure.
Alors, juste en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est ce M, Jacques Le Carme ?
Oui, enfin bon, il est clair d'après le contexte que M, c'est Malraux, et tout le monde l'aura reconnu parce qu'au début de l'article, au cœur de l'article, il dit c'était vers 1926. On m'a demandé de signer une pétition envers un certain Malraux que je ne connaissais pas parce qu'il avait, disons, dévalisé les ruines d'Angkor. Je n'ai pas signé parce que j'estime que l'écrivain est responsable de ses actes. Je crois, au contraire, si vous le permettez, que Drieu était peut-être le mieux placé pour parler de la responsabilité. Et je pense que, enfin, Il n'est pas si loin de Pollan, dans la mesure où Pollan a beau défendre l'autonomie de la littérature, il lui donne quand même, si je prends bien les fleurs de Tarbes de temps en temps, une sorte d'esprit civique.
De Tarbes, ou la terreur dans les lettres.
Ou la terreur dans les lettres, qui est publiée sous l'occupation, mais qui avait été écrit un peu avant et qui est au centre, à mon avis, de toute la NRF. Donc on peut voir, en liaison avec la terreur de la Révolution, se développer moins une théorie qu'une problématique de la littérature que l'on parvient mal à réunifier. Maurice Blanchot ne consacre pas moins de 3 articles à cela dans le Journal des débats. Ramon Fernandez fait une merveilleuse définition de cela. C'est un très bel article là-dessus. Mais si vous voulez, je reviens. L'esprit NRF, me semble-t-il, c'est que l'engagement politique est toujours possible. L'apolitisme le plus parfait est lui aussi accepté. Ce qu'on n'admet pas, c'est la médiocrité du style de l'engagement. C'est-à-dire le critère reste
la
littéraire.
Haute, ambition littéraire avant tout.
Absolument. Je reviens alors sur Malraux, car c'est assez intéressant la suite de l'article. Au fond, Drieu et Malraux, amis intimes, sont engagés dans cette sorte de guerre civile des écrivains. Et au fond, Drieu, à ce moment-là, il sait, il pense qu'il va être fusillé à la Libération. Et alors, il se dit, quelque chose de curieux, au nom de la responsabilité de l'écrivain, il se dit, moi, je n'aurai pas le courage de tuer mon ami Malraux, mais j'accepte, dit-il, l'idée de me faire tuer par les servis, par les armées de Malraux, avec un doigt de masochisme, oui, qui est évidemment la teinte de Drieu. Mais, encore une fois, Pollan, après coup, a admirablement parlé de Drieu et du suicide de Drieu.
En mars 1945.
Que dit Pollan? Il nous dit que Drieu se sentait responsable de ceux qu'il avait accompagnés, j'allais dire du bout des doigts, dans la collaboration, et il cite Chardon et Jouandeau, ce qui n'est pas juste. Jouandeau n'écrit pas un seul texte politique ou raciste. Il est raciste, hein, mais il n'en écrit pas un seul texte dans la NRF. Et donc, Drieu se serait suicidé pour éviter un procès où le procès aurait été celui de Chardon et de Jouandeau, qui vont passer sans péril le cap, il faut le rappeler, de l'épuration. Je crois que Drieu était vraiment bouleversé de l'idée que son jeune ami Lucien Combel avait été condamné à 50 travaux forcés, alors que Combel était un cadet, vous voyez. Donc l'idée de responsabilité est particulièrement poussée chez Drieu, et juste voudrais lui dire d'un mot, qui de plus irresponsable que Monterland, qui après avoir pris le parti de l'Espagne républicaine, s'engage dans une sorte de collaboration vichiste et qui va pousser si loin l'irresponsabilité, je l'ai noté dans mon livre sur Drieu, qu'il va réécrire le solstice de juin lorsqu'il l'éditera dans la Pléiade, en y gommant toutes les formules. J'en signale une, si je me souviens bien, il s'agenouillait devant la croix gammée. Non, dans la version de 1960, il s'agenouille devant cette grande fleur qui, dans le printemps de la France, se développe. Lyrisme floral.
Gisèle Sapiro,
juste un point sur le procès Combel. Dans le procès Combel, parmi les arguments de la défense, il y a le fait que Combel aurait été influencé par des aînés prestigieux et notamment Drieu. Je pense que ça a dû jouer en fait dans le sentiment de Drieu. Et l'autre chose, c'est que effectivement, au moment de son suicide, Drieu écrit un texte, une exorde, dans laquelle il dit très clairement que l'écrivain doit assumer sa responsabilité, l'intellectuel doit assumer sa responsabilité.
Est-ce que c'est une forme
tout
de
en se soustrayant à la justice?
Il y a un premier texte publié sous le titre « Exorde » qui finit, il joue un procès, il dit « Je demande la peine de mort ». Et entre-temps, c'est me semble-t-il, Drieu se dit « Non, je ne supporterai pas les prisons de l'épuration ». Et il fait sa première tentative de suicide, si je me souviens bien, en août 44, et il fera une tentative réussie, si l'on ose dire, en, je crois, mars 1945. Et simplement, il s'est retiré pendant quelques mois. Tout de même, la littérature est au-dessus de tout, car à quoi consacre-t-il ses mois? à faire un chef-d'œuvre, à mon avis, inachevé, que sont les mémoires de Dirk Krasp, où il n'y a pas une seule problématique politique en jeu.
C'est sur ce parti pris de tenir la littérature au-dessus de tout que nous allons nous quitter. Merci Gisèle Sapiro. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et que vous avez publié « La guerre des écrivains » chez Fayard. Jacques Lecarme, merci à vous. Je rappelle que vous avez publié « Drieux-La Rochelle » ou « Le bal des maudits » aux Presses universitaires de France. Aujourd'hui, nous avons parlé des heures sombres de la Nouvelle Revue française. Nous avons vu la force des engagements individuels au sein de cette aventure collective. Demain, nous parlerons avec Angie David et Philippe Solers de sa résurrection, 10 ans plus tard, sous le nom de Nouvelle NRF. C'était la NRF 100 ans de littérature, une émission proposée par Fanny Jaffray. Équipe de réalisation Doria Zénine et Antoine Lehambre, documentation Olivier Tossery, texte lu par Gérard Bolduchaumont. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de Camille de Toledo et Dominique Quesada pour Mythographie.